RMC, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Il est 16h57, vous êtes sur RMC. Si vous nous rejoignez maintenant, ben vous n'avez pas loupé grand-chose puisque la course va vraiment se décompter dans les minutes qui viennent. Cette huitième étape du Tour de France, donc sur les terres bretonnes, entre Rennes et Mur de Bretagne. Nous sommes donc à moins de 17 km de l'arrivée. Dans un instant, on va faire un point complet, voir où en sont tous les leaders. Mais avant cela, c'est l'heure du jeu Tour de France RMC. Et aujourd'hui, je vous offre la possibilité de gagner le jeu de société L'Échappée Infernale, le livre Parlons Vélo de Marc Madiot aux éditions Talents Sport, et surtout deux places VIP pour assister dans les meilleures conditions à l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées pour tenter de gagner ce superbe pack cadeau. Appelez le 3216 touche 6 ou envoyez le mot-clé RMC par SMS au 73216. 16 km 302 de l'arrivée, donc un nouveau point avec Fred, c'est le top course.
RMC top course.
Avec trois coureurs qui font de la résistance sur les routes ensoleillées des Côtes d'Armor, 16 km à parcourir, deux Polonais, Michal Golas, coureur de la formation Ethics Quickstep, qui vise pourquoi pas un premier succès de prestige et surtout la quatrième victoire en 8 étapes pour sa formation belge. Il est accompagné, ce Michal Golas, de son compatriote Ouzarski de l'équipe allemande Bora, et puis Lars Ittingbach, un Danois rompu au classement classique, notamment de l'équipe Lotto Soudal, un coéquipier de Tony Galopin qui navigue dans les premières positions, le coureur francilien Tony Galopin, les premières positions du peloton, particulièrement à l'affût, tout comme l'ensemble des leaders à l'avant de ce peloton. 15 km 500 de l'arrivée et un écart qui plafonne à 35 secondes désormais, l'écart qui décroît sous l'impulsion des maillots verts fluo de la formation américaine Garmin Cannondale, qui veulent probablement positionner leur grimpeur puncher Dan Martin au mieux en bas de ce mur final de 2 km.
Ok, Cyril, c'est moins nerveux quand même que dans l'étape en Belgique avec l'arrivée au mur de 8. Pour l'instant, on est à 15 km de l'arrivée. Les équipes de leaders arrivent en second rideau. Pour l'instant, c'est pas l'affolement. Hein. On va se positionner sans doute dans les minutes qui viennent, mais on prend son temps pour le faire.
Oui, on n'a pas raison. Enfin, on a raison pour l'instant de ne pas s'affoler. D'ailleurs, il n'y a pas de chute, donc ça veut dire qu'on ne s'affole pas. On est dans un contexte un petit peu différent que l'étape belge arrivant au sommet du mur de huile. Il y avait quand même des grosses difficultés dans les 15 derniers, non, même dans les 10 derniers kilomètres où le placement était relativement difficile. Et puis rappelez-vous, dans cette étape il y avait quand même eu une énorme chute, donc c'est vrai que la tension était à son maximum. Là on a le temps de venir se placer, les enjeux sont moins importants puisque à la veille du contre-la-montre par équipe de demain, le classement général est déjà figé, donc c'est pas nécessaire de se battre autant qu'on se battait au pied du mur de 8 qui était beaucoup plus court, donc il fallait pas se rater au pied, mal placé au pied, et c'était la certitude de perdre du temps. Là sur 2 km voire un tout petit peu plus, on a le temps, même si on l'attaque en 20 ou 25e position, on a le temps de se refaire et de se replacer, surtout que le final, on va dire le dernier kilomètre, progressivement perd de l'agressivité au niveau de la pente.
Ouais. Il n'y aura pas de grosse différence à l'arrivée tout à l'heure, alors qu'il est 17h.
Ah, il peut y avoir des différences, mais disons que c'est s'il y a des différences, léger, hein. Ce sera à la pédale, pas sur des placements.
De toute façon, celui qui veut faire la différence, ça sera dans la deuxième partie du mur de 8, pas dans la grosse difficulté. Plus parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il y a quand même un léger vent défavorable et que le coureur qui veut gagner aujourd'hui a plutôt intérêt à rester au chaud le plus longtemps possible.
Ok, Georges Quirino sur la moto RMC qui va arriver dans quelques instants au pied de mur de Bretagne. Georges, raconte-nous un petit peu ce qui se passe là-bas, évidemment dans l'attente des coureurs.
Oui, pour évoquer surtout la différence par rapport, Christophe, à l'arrivée à Mur de Huy. En Belgique, on était sur des routes assez étroites, il y avait une succession de virages, de ronds-points. Là, c'est vrai que ce sont des routes très larges, de longues lignes droites, avec un vent de côté ou un vent défavorable un peu plus loin, mais c'est vrai que c'est, ça va permettre en tous les cas au peloton de d'avoir en ligne de mire l'échappée, de pouvoir vraiment jouer comme ils veulent jusqu'au moment où ils auront décidé de venir les dévorer. C'est ces grandes lignes droites, ces deux voies, on peut passer à deux voire trois voitures. La seule difficulté qu'il peut y avoir, c'est la présence du public très nombreux, notamment lorsqu'il restera 10 km, un public très nombreux sur toute la largeur de la route. Mais c'est vrai qu'on est loin des pièges que l'on pouvait avoir en Belgique à l'approche du mur de Huy.
Très bien. Et dans l'ascension de mur de Bretagne, Fred, on l'a vu tout à l'heure, c'est barriéré, donc pas beaucoup de danger pour les coureurs qui seront protégés. Hein.
Oui, évidemment, on n'assistera pas aux scènes auxquelles on peut assister au sommet des grands cols. Il y aura beaucoup de monde, mais c'est barriéré avec un vent qui souffle, disons, de trois quarts face venant de la gauche. Il va falloir la jouer fine parce que l'arrivée est sur un léger replat après ces 2 kilomètres d'ascension. La puissance et le jus vont parler, évidemment, mais aussi le sens tactique. C'est sûr, il ne va pas falloir se découvrir trop tôt pour s'imposer aujourd'hui en haut de cette montée finale à Mur de Bretagne. 8e étape du Tour, déjà une semaine découlée. Les organismes sont déjà entamés et on a bien entendu les consignes du druide, ne pas être au-delà de la 30e place dans le peloton si l'on veut postuler à la victoire aujourd'hui.
Et pendant ce temps-là, nos trois échappés continuent d'appuyer sur leur pédale sans vraiment trop y croire, hein, Cyril. Hein. Ils pensent à quoi là? Ils pensent dire bon, bah, il reste combien de temps avant d'être pris là?
Ils pensent surtout à faire le plus de kilomètres devant.
Et se faire rattraper le plus tard possible.
Et se faire rattraper le plus tard possible, de façon à avoir une présence plus longue à l'écran de télévision pour leurs partenaires, pour faire plaisir à leurs patrons qui diront ben voilà, le retour sur investissement est un peu plus important si on fait 3 km de plus ou 3 km de moins.
Générique, monsieur.
On l'a pas le générique.
Non, mais c'est exactement ça, parce qu'ils savent très bien que la course, elle est finie.
Même 15 secondes au pied,
c'est l'échappée publicitaire, c'est ça. Hein,
non, elle n'était pas publicitaire, mais maintenant elle devient, puisque la réaction du peloton ne s'est pas fait attendre derrière les hommes de tête, et surtout avec l'équipe Garmin, qui ne souhaitait pas voir cette échappée développer, parce qu'ils se disent on n'a peut-être pas beaucoup d'étapes à gagner, on n'a plus de sprinter. Donc pourquoi pas tout tenter aujourd'hui pour essayer de gagner cette étape. On en a besoin en plus. Alors qu'il y a une chute.
Ouais. Chute de Damien Gaudin pour l'équipe AG2R La Mondiale, qui a emmené Merawi Koudous avec lui, l'un des deux érythréens de l'équipe MTN Kubetka, et Nicolas Hédet, le coureur de la formation Cofidis, deux Français à terre à l'arrière du peloton. Nicolas Hédet qui avait déjà teinté du bitume dans les premières étapes du Tour, il ne décrochera pas une place d'honneur, le grimpeur de la formation Cofidis. Aujourd'hui on est à 10 km 500 de l'arrivée, et les maillots jaunes fluo de la formation Tinkoff Saxo, les coéquipiers d'Alberto Contador et de Peter Sagan, ont pris les commandes du peloton. 27 secondes dernier pointage pour les trois hommes de tête, les deux Polonais Golas et Uzarski, accompagnés du Danois Bach.
Nicolas Hédet qui souffre déjà, qui a déjà donc tâté du bitume et qui a un gros pansement sur le coude gauche. Ça va pas arranger son état. 10 km 400 de l'arrivée, les 10 derniers kilomètres donc de cette 8e étape du Tour de France.
RMC, les 10 derniers kilomètres.
Et à 10 km de l'arrivée, effectivement, les équipes des leaders sont en train de s'approcher de la tête de course, Fred.
Oui, avec du monde sur le bord des routes et sur la droite de la route, les Tinkoff Saxo d'Alberto Contador. On aperçoit également à l'avant les Katiusha qui tentent de placer leur puncher Purito Rodriguez, le poids plume déjà vainqueur de l'étape du mur de Huy. Également présent à l'avant les Sky de Christopher Froome, évidemment, et puis les Etix Quickstep qui apparemment semble toujours rêver d'une victoire, d'une quatrième victoire en 8 jours, avec pourquoi pas le champion du monde Michal Kwiatkowski. Autre formation présente, les Astana de Vincenzo Nibali, et puis les Lotto Jumbo qui ont sans doute des cartes à jouer en cas d'arrivée massive. Derrière, les sprinteurs passent la marche arrière alors qu'on effectue un gros travail quand on est sprinteur pour des étapes pour puncher. On a ainsi vu le maillot vert en personne, André Greipel, déjà double vainqueur d'étape tiré de long bout droit pour la carte maîtresse des Lotto Soudal aujourd'hui, à savoir le français Tony Gallopin.
Alors que l'échappée va être reprise dans quelques instants, puisqu'il n'y avait plus que 10 secondes d'écart au dernier pointage, et en tous les cas un des trois coureurs est repris à l'instant même, Fred, hein.
Oui, c'est Uzarski, Bartosz Uzarski, qui avait été échappé dès le 6ème kilomètre en compagnie de trois français, on le rappelle, en début d'étape, avec Sylvain Chavanel, Pierre-Luc Perrichon et Romain Sicard. Uzarski, dernier escapé de cette longue échappée groupée, et qui ce soir sera à coup sûr désigné coureur combatif de la journée, lui qui s'était glissé aujourd'hui dans sa deuxième échappée depuis le départ du Tour.
9 kilomètres de l'arrivée, donc à 7 kilomètres du pied de la côte, qui va donc désigner le vainqueur du jour. C'est évidemment le seul élément de cette étape où on peut faire la différence, puisque jusqu'à présent c'était quand même assez plat, même si en Bretagne c'est jamais complètement plat, ça monte et ça descend, mais en tous les cas c'est là à l'arrivée une nouvelle fois que va se juger cette victoire, avec les grands favoris, les grands leaders qui, espérons-le, Lucho, vont s'en donner à cœur joie dans quelques minutes maintenant.
Ah oui, c'est naturel, je pense que quand même bon, un effort sur un kilomètre voire deux kilomètres, c'est pas grand chose pour les leaders, et je pense le fait de se tester un petit peu dans la dernière ascension de la journée finale, en plus avec peut-être à la clé une victoire pour l'un des quatre, ça serait quand même marquer un grand coup psychologiquement, que ce soit de Froome ou Contador. Peut-être Quintana sera peut-être un petit peu juste, parce que c'est pas une ascension pour lui, mais il sera quand même au contact des plus forts. Mais on peut s'attendre à voir un petit Contador ou un Froome, même Nibali qui est quand même un puncher, hein, dans ce genre d'ascension. Il faudra quand même se méfier de Nibali aujourd'hui.
Et Valverde aussi également, mais il y en a des favoris, avec Sagan, avec Rodriguez, avec Dan Martin, l'Irlandais. 8 kilomètres de l'arrivée, les deux derniers survivants de l'échappée, Lars Sittingbach, le Danois de l'équipe Lotto Soudal, et Michal Golas, vont être repris dans quelques secondes. Luc, il y a 2 kilomètres d'ascension aujourd'hui à 7% de déclivité. Toi qui étais un super puncher et un excellent grimpeur, est-ce qu'il y a moyen de perdre la course avant même de la gagner, avant même d'arriver au pied, non pas en chutant, ne pensons pas au pire, mais en laissant de l'énergie pour se placer? Exactement.
Au niveau du placement, c'est toujours important de bien savoir se placer, mais bon, a priori quand même, comme j'ai fait le parcours en voiture, c'est quand même assez large, donc il y a la possibilité de bien se placer, et je pense que les ceux qui savent qu'ils ne gagneront pas, je dirais, l'étape aujourd'hui, bien sûr il y aura des équipiers qui vont emmener leur leader, mais il y a moyen de bien se placer, ça frottera peut-être beaucoup moins que les premiers jours du Tour de France, donc plus de possibilités de mieux se placer. Et par contre, celui qui veut vraiment gagner aujourd'hui, c'est pas dans la première partie de l'ascension qu'il va falloir attaquer, il va falloir regarder, se tenir au chaud, et c'est vraiment dans les 700-800 derniers mètres où il y a le lent faux plat montant qui monte quand même à entre 6 et 7% quand même, mais c'est là, c'est toujours dans le plus facile, jamais dans la difficulté, la plus grosse difficulté où on peut gagner une étape, c'est toujours après la grosse difficulté, là tout le monde s'assoit parce que tout le monde est un petit peu essoufflé, tout le monde est un petit peu dans le dur, et c'est là où il faut, comme je le dis, hein, paf, un petit coup de giclette, et là tu peux faire la différence, parce que tout le monde se regarde et c'est à qui ira chercher celui qui part, et ça c'est vachement important.
Et là, on ne louera jamais assez les mérites du Paquito, un célèbre nightclub.
Ah oui,
à Rennes.
Ça fait du bien.
Apparemment, non, c'est pas un nightclub, c'est un bar d'ambiance. D'accord. Le patron d'ailleurs était super sympa, et je peux vous dire une chose, c'est qu'il a fait un concours. Bon, je suis arrivé après le concours, mais il y avait deux vélos. Ouais. Et c'était celui qui allait faire le kilomètre le plus rapidement possible. Ouais. Et le vainqueur, c'était McEwen.
Robbie McEwen,
58 secondes le kilomètre. C'est pas mal.
Ouais, après on est sur des vélos immobiles, donc.
Oui, oui, mais bon, 58 secondes, il faut le faire.
D'accord.
Et alors après, il était chercher son trophée, c'était une bouteille de champagne dans un seau à glace avec la petite bougie qui pétille. Ouais. Et il m'a dit, Lucho, c'est le plus beau trophée que j'ai eu depuis toute ma carrière.
Ah, ok. Il a tout oublié, Robbie.
McEwen qui en a gagné pourtant, hein.
Ah, ouais, mais en rigolant, quoi. Et après, bon, il y avait pas mal de petites demoiselles qui tournaient autour de lui. Après.
Ah, ben oui, c'est ça quand on... C'est ça les champions. C'est ça les champions, hein. Tu en sais quelque chose. 6,5 km de l'arrivée, Fred, avec la formation BMC au grand complet à l'avant-garde du peloton.
Oui, on en a perdu deux chez BMC, le maillot rouge et noir de la formation américaine. Daniel Hauss, l'Italien, machine à rouler, est en train d'entrer dans la commune de Mur-de-Bretagne, mais ce n'est pas dans le village que va être jugé l'arrivée, mais bien à la sortie du village, en haut de cette longue colline de 2 km, colline noire de monde aujourd'hui, en plein dans les champs. D'habitude, c'est les bouses de vaches qui font la loi aujourd'hui.
Ah oui, ça.
Et aujourd'hui, ce sont les spectateurs du Tour. 6 coureurs de la formation BMC avec, c'est important à noter, en dernier maillon de la formation américaine, l'ancien champion olympique, l'Asturian, l'Espagnol, Samuel Sanchez, qui pourrait renaître de ses cendres, pourquoi pas, tout à l'heure, à Mur de Bretagne.
Alors, on rappelle que TJ Van Garderen n'est pas très loin au classement général. TJ Van Garderen, Cyril, est-ce qu'il ambitionne, pourquoi pas, d'aller chercher le maillot jaune aujourd'hui ?
Bon, je ne pense pas que c'est l'objectif, mais déjà le premier objectif au niveau du classement général, c'est de ne perdre aucune seconde sur les autres favoris de ce Tour de France. Donc d'abord on assure, et puis ensuite si on peut prendre du temps, eh bien tant mieux. Mais je le vois difficilement arriver ici avec une dizaine ou une quinzaine de secondes d'avance plus les bonifs pour aller chercher le maillot. Mais
et puis c'est pas tout à fait ce qui correspond le mieux à ses capacités physiques.
Non, ça n'est pas un grand démarreur sur les pourcentages importants.
5 km de l'arrivée avant le sprint final ici à Mur de Bretagne, 3 km avant le début de la montée finale, toujours les BMC qui roulent pour Van Garderen, pour Samuel Sanchez, donc on l'a compris, et Christopher Froome et ses Sky qui viennent se positionner à 4 km 500 de l'arrivée maintenant, dans les toutes premières places, et dans leur roue les Tinkoff Saxo d'Alberto Contador. Peter Sagan est idéalement placé également, le peloton est en train de se réduire, de fondre, vraiment cette peau de chagrin en ce moment. On en perd par grappe, c'est un gros travail des équipiers avant que ces derniers ne décrochent. On va arriver, c'est sûr, avec un peloton d'une moins de 60 unités au pied de la bosse finale.
Georges Quirino sur la moto RMC qui attend le peloton au pied justement de la côte. Georges, j'imagine que l'ambiance est en train de monter là à 2 km avant que le peloton arrive, hein.
Exactement, ouais, et juste avant d'être sous la banderole des deux derniers kilomètres, ce n'est pas barriéré. Donc là, pour l'instant, il y a énormément de monde sur toute la longueur de la chaussée. On attend, on surveille et on a barriéré ensuite. Et là, on est au pied de la montée où il y a énormément de drapeaux bretons, plusieurs files de supporters, 3, 4, 5 files de supporters, les rangées pour attendre les coureurs dans quelques instants. Ouais, l'ambiance monte un petit peu.
Les coéquipiers d'Alberto Contador ont pris place en tête du peloton, Fred.
Oui, les Tinkoff Saxo et leur maillot jaune fluo qui peuvent apercevoir également les Sky d'Albert, de Christopher Froome. Les Orica Green Edge sont également à l'avant, eux qui ont vécu un début de Tour de France dramatique, cauchemardesque même. Beaucoup de coureurs tentent de se positionner au mieux. Il y a toujours autant de favoris pour ce genre d'arrivée. On en est qu'à la 8e étape du Tour et il y a encore des coureurs frais. Tous ceux qui sont passés un peu au travers avec les arrivées au sprint, pour Ito Rodriguez a pris confiance, il est à nouveau là dans les toutes premières positions pour aller remporter peut-être sa deuxième étape depuis le départ de ce Tour de France. Les Français sont également présents, on a vu Thibaut Pinot ainsi que Romain Bardet et Jean-Christophe Perrault.
Et Cyril Gauthier également. Hein.
Cyril Gauthier qui ferait presque bien d'anticiper, lui qui aura fort à faire face au gros bras du peloton. On est à 2 km 800 d'arrivée.
On peut rajouter parmi les favoris Stibar, hein, qu'apparemment il est protégé dans son équipe.
Hein. Stibar qui a déjà remporté une étape, c'était avant-hier. Chris Froome bien protégé dans la roue de ses coéquipiers de la formation Sky. Et puis des coureurs, me semble-t-il, de la FDJ qui sont sur la droite de la route, Fred.
Oui, Steve Morabito notamment, le poisson pilote de Thibaut Pinot, si on peut l'appeler ainsi. Arnaud Démare, l'ancien champion de France, est en train de tirer un vrai bout droit à 400 mètres seulement du pied de la dernière bosse. Super boulot aujourd'hui des équipiers qui s'appellent Cavendish, Greipel ou Démare.
Allez, on va voir la moto RMC qui se trouve juste au pied de la côte et qui va voir le peloton arriver à toute vitesse. Georges.
Exactement, avec les motards de la garde républicaine qui passent là devant nous sous la banderole des deux derniers kilomètres. On commence à agiter les drapeaux du côté des supporters, les motos photographes qui précèdent le peloton, la voiture de Christian Prudhomme, et voilà le peloton qui va tourner à droite dans quelques instants pour la montée à Mur de Bretagne. On voit des coureurs de la formation Cofidis à l'avant, on voit le maillot jaune de Christopher Froome en troisième position, pour Ito Rodriguez en cinquième position, Sagan en septième position et Albert Alberto Contador en 10e position. Vincenzo Nibali un petit peu derrière aux alentours de la 15e position. Ils ont pris le garage à droite, ils sont au pied du mur. Ils sont maintenant dans cette montée du mur de Bretagne.
Et c'est le barbu Geoffrey Soupe qui est en tête du peloton pour l'instant, Fred.
Oui, sans doute pour favoriser les intérêts de Julien Simon, le puncheur maison chez Cofidis. Geoffrey Soupe qui s'écarte à 1,7 km de l'arrivée. Ça y est, nous sommes dans des portions à plus de 10%. Les Sky viennent de prendre la main avec Christopher Froome en deuxième position, parfaitement entouré par un équipier devant, un équipier derrière. Accélération sur la gauche de la route d'un coureur de l'équipe Astana pour venir positionner Vincenzo Nibali. Des coureurs de la formation Giant Alpecin, peut-être pour le breton néophyte du Tour Warren Barguil. Et à l'instant, à 1,5 km de la ligne, c'est désormais Christopher Froome qui mène le peloton avec dans sa roue des coureurs qui ont la bave aux lèvres, des coureurs qui attendent peut-être les derniers hectomètres pour dégainer en haut de mur de Bretagne.
Mais ça n'attaque pas encore, hein, Cyril. Tout le monde s'observe pour l'instant à 1,5 km d'arrivée.
Non, ça monte vite. L'observation, elle est terminée. Il n'y a pas d'attaque, c'est vrai, mais ça monte trop vite pour qu'il y ait des attaques à cet endroit-là. On a pu voir également que Boasson-Hagen était relativement bien placé. Alors peut-être la première accélération maintenant.
Oui, la première accélération sur le côté gauche de la route, Fred.
Oui, d'un coureur de la formation Bora, l'équipe allemande invitée par les organisateurs du Tour de France qui avait placé
Villermoz
Uzarski dans l'échappée du jour. Villermoz a accompagné, tout comme Simon Yates, me semble-t-il, le Britannique de l'équipe Orica Greenedge, Alexis Villermoz, le grimpeur jurassien de la formation AG2R La Mondiale, en tête du peloton à 1,3 km de l'arrivée. Il a trouvé que ça ne montait pas assez vite. Lui, qui est un poids plume, est en train de faire la montée avec 1200 mètres encore à parcourir. Mais ils sont longs, ces 1200 mètres. On est en côte. Daniel Teklaimanot, le meilleur grimpeur, est passé par la fenêtre.
Ouais, Teklaimanot qui va probablement perdre son maillot à poids rouge de meilleur grimpeur. Villermoz toujours en tête, mais il est en train de couper son effort. Il demande aux autres de prendre le relais. Et derrière, ça revient très fort. Il n'y a pas beaucoup d'écart pour les trois hommes de tête.
Oh non, une dizaine de mètres seulement. Alexis Villermoz qui a dans sa roue Simon Yates. C'est Roy Kurvers, un équipier de Degenkolb et Barguil chez Giant Alpecin. Alexis Villermoz qui continue à faire le forcing, mais qui se retourne à droite, à gauche.
Il se retourne trop.
Et à l'avant du peloton, c'est Christopher Froome qui emmène le peloton tout seul. Il n'a plus d'équipier, le maillot jaune.
Voilà, le patron, le maillot jaune en personne qui est en train de reprendre les trois hommes de tête alors que justement il passe à l'instant même sous la banderole du dernier kilomètre. La flamme rouge.
Intégral Tour, la flamme rouge.
Et c'est Chris Froome aller chercher la victoire d'étape. Pourquoi pas? Chris Froome qui montre qu'il est bien le patron de ce Tour de France. Lui qui porte le maillot jaune. Les autres favoris sont dans un deuxième rideau, Fred. Et
Christopher Froome avec dans sa roue Purito Rodriguez, Alexis Villermoz dans la roue du maillot jaune. Peter Sagan est quatrième. Tony Galopin cinquième. Simon Yates, le Britannique d'Orica, septième. Alejandro Valverde évidemment là. Dan Martin neuvième. On aperçoit Van Garderen, Quintana 11, Warren Barguil 12, Samuel Sanchez. Et là, où est Contador? Accélération à l'instant d'Alexis Villermoz.
Villermoz, oui, une véritable attaque. Ouais, une vraie attaque d'Alexis Villermoz, alors qu'effectivement, Nibali, lui, est retardé à l'arrière du peloton maillot jaune. Mais Villermoz qui est peut-être parti pour une victoire d'étape.
Il coince Vincenzo Nibali, vainqueur sortant du Tour de France. Accélération d'Alexis Villermoz à 500 mètres de la ligne d'arrivée.
Allez,
c'est Dan Martin, le.
Allez, Villermoz!
Dan Martin, l'Irlandais de Garmin, qui vient de sortir en contre-attaque. Les favoris ne réagissent pas. Alexis Villermoz, le Jurassien, qui a déjà connu un Tour de France, qui en est à son deuxième, qui arrive en haut de la côte à Mur de Bretagne. Il compte une cinquantaine de mètres d'avance sur Dan Martin, devant Sagan, Sanchez, Galopin, Valverde, Quintana, Contador et
Froome.
S'observe, Villermoz est en train de faire la bonne opération.
La bonne opération par Alexis Villermoz, que Frédéric Adam avait donné vainqueur.
Moi aussi, je l'ai donné hier.
Villermoz qui va s'imposer dans quelques instants. Il a fait le trou, Fred. C'est la victoire pour Villermoz dans un instant.
Alexis Villermoz, coureur de l'équipe AG2R La Mondiale, qui à la manière de Blel Kadri il y a un an sur les hauteurs de Gérard May vient s'imposer devant Dan Martin. Victoire de Villermoz devant Martin, Valverde et Sagan. Tony Galopin vient prendre une nouvelle place d'honneur. Alexis Villermoz, coureur issu du VTT, encore tout jeune, qui était là pour épauler Romain Bardet et Jean-Christophe Perrault au sein de la formation AG2R La Mondiale, a eu raison d'en profiter. Peut-être endossera-t-il un statut de leader au sein de la formation
Jean-Berrienne. Avec un leader qui a terminé avec une vingtaine de secondes de retard, c'est Vincenzo Nibali, le vainqueur sortant du Tour de France. La Pierre-Yves Leroux derrière la ligne d'arrivée avec un client peut-être.
À côté d'Alexis Vuermoz qui est assis contre la balustrade. Il est quasiment tombé de vélo et il est en train de reprendre ses esprits là. Il a du mal à retrouver son souffle. Il vient d'enlever son casque, épuisé évidemment après cette montée terrible et cette victoire, les bras levés. Il a les yeux fermés, il essaye de retrouver maintenant un second souffle avec les spectateurs qui sont juste derrière lui, qu'il regarde. Forcément une image impressionnante. Il va pouvoir évidemment profiter alors qu'on aperçoit Jean-Christophe Perrault qui est juste à côté. On va essayer de demander un petit mot à Jean-Christophe Perrault évidemment. Jean-Christophe, un petit mot en direct. Il est là, Alexis, après sa victoire.
Il est énorme. Tout simplement énorme. C'est un des meilleurs punchers du monde. Ça a roulé à bloc. Tous les cadors ont pu que se rasseoir et il est sa victoire.
C'est quand même impressionnant. Vous pensiez qu'il était capable aujourd'hui d'être le premier ici?
Ouais, clairement. C'est un puncher de fou.
Il vous impressionne, même vous?
Ouais, un peu qui m'impressionne.
Merci Jean-Christophe, qui passe à côté de son coéquipier. Dan Martin n'est pas très loin non plus. Très certainement que Alexis Vuermoz va être obligé d'aller au protocole. Je suis pas certain qu'on puisse avoir un mot du vainqueur de l'étape, le premier vainqueur français. Aujourd'hui, il est toujours en train de récupérer, assis contre la balustrade. Là, assis, c'est assez surprenant. Et pour l'instant, il ne peut pas se relever. Alejandro Valverde est là également. Peter Sagan qui discute avec lui. Et les coureurs qui font demi-tour, car sachez qu'aujourd'hui, les bus sont... Des équipes sont tous garées assez loin et en bas de Mur de Bretagne et qu'ils vont redescendre. J'aperçois Romain Bardet qui s'approche. On va essayer d'aller à sa rencontre pour avoir une petite réaction aussi. Romain, Alexis, il est là, il vient de gagner, il vous impressionne? Romain qui passe, qui va aller le féliciter très certainement, qui n'a pas voulu nous dire un petit mot, mais il va s'écarter très certainement pour aller féliciter son partenaire. On va se mettre dans la roue de Romain pour avoir un petit mot des deux. Voilà, la poignée de main entre Romain Bardet et Alexis Vuermoz et évidemment la satisfaction. Romain, on peut avoir un petit mot sur Alexis?
Oh, c'est super, une super victoire pour l'équipe. Vous savez qu'on était capable, il s'est pas dégonflé, une belle étape du tour, ça fait plaisir.
Il est très costaud.
Ouais.
Voilà, pas économie de mots hein, de Romain Bardet, on le sentait, qui a pas forcément envie de ouais. Trop parler. On peut peut-être écouter. Voilà, il est en train de partir. Alexis Vuermoz, ça y est, il a retrouvé le sourire. On va voir si on peut glisser un micro.
Merci. Merci
beaucoup. Voilà, c'est un peu la bousculade, évidemment.
On vient de te voir à l'antenne, Pierre-Yves, ouais. En essayant de glisser.
Oui, vous avez pas vu le coup de coude hein, que j'ai pris, mais on en prend des fois.
C'est qui t'a mis un coup de coude?
Ah bah, il est protégé
Ferré,
parce que.
Mis un coup de coude,
non,
ou quoi?
Non, mais en fait, on n'a pas trop le droit de faire des interviews à ce moment-là. Il y a des
d'accord.
photos quand c'est le vainqueur de l'étape. Mais on pourra le retrouver tout à l'heure.
Bien sûr.
Vous voulez écouter Alberto Contador?
Ah ben oui, Alberto.
Eh bien, c'est pas sûr que je puisse l'avoir parce qu'il est en train de repartir avec Racinto qui court derrière lui. Voilà.
Ah oui, comme on le disait tout à l'heure, Jacinto, qui était notre invité tout à l'heure dans le camion.
Pour information, Cyrillon, Nibali a perdu 9 secondes.
9 secondes, d'accord. 9 secondes perdues pour Nibali. On en reparlera tout à l'heure, mais effectivement, c'est une drôle d'histoire. Je sais pas pourquoi il a coincé.
Il est pas bien, le Vincenzo. Il est pas bien.
Non, il est pas bien. Il faut dire qu'il a été victime d'une chute avant-hier. Et peut-être n'est-il pas complètement remis. Et je pense que la journée de repos après-demain va faire du bien. Demain, il y a quand même le contre-la-montre par l'équipe. Fred Cocorico, on n'est pas le 14 juillet, mais c'est la première victoire d'étape d'un Français sur les routes du Tour 2015. Et quel jeune Français étonnant que cet Alexis Vuermoz.
Oui, 27 ans, Alexis Vuermoz qui participe à son deuxième Tour de France après avoir disputé son premier tour sous le maillot de la défunte équipe Source Ojasen. Coureur issu du VTT, Alexis Vuermoz, jurassien, format de poche, hein, 1m75, 60 kilos, et qui trouve vraiment sur ses côtes bretonnes un terrain d'expression à sa mesure. Lui qui a remporté il y a quelques mois, en début de saison cette année, le Grand Prix Plumelec, qui est une manche de Coupe de France au sommet de la côte de Cadoudal, où sera jugée l'arrivée du contre-la-montre par équipe demain. 27 ans, Alexis Vuermoz, coéquipier de Perrault et de Bardet dans cette équipe AG2R La Mondiale. Vuermoz, issu du VTT, comme Cadel Evans, vainqueur il y a 4 ans, ici même à Mur de Bretagne.
Dans quelques instants.
Et comme Jean-Christophe Perrault, on le rappelle, ouais. Vice-champion olympique de VTT, derrière le maître absolu Julien Absalon. Le VTT, Lucho, c'est quand même une superbe école pour la route. Hein.
Écoute,
on s'en rend compte année après année.
Moi, j'ai toujours dit que le VTT, c'était peut-être l'école pour faire cycliste professionnel sur route. Je crois que c'est une très, très belle école, notamment pour les grimpeurs. Et c'est encore mieux peut-être que l'école de cyclisme.
Ouais. Pourquoi Cyril? Parce que on fait monter le cœur très haut quand on est vététiste sur des efforts assez brefs mais qui forment finalement à la carrière de coureur professionnel.
Oui, et puis on a sur les parcours de VTT, il faut bien le dire, on a des passages très pentus sur 20 secondes, 30 secondes où il faut énormément de puissance, où il faut se mettre à fond avec des passages qui sont en plus techniques. Oui, le VTT comme le cyclocross permettent d'acquérir des qualités de puissance anaérobie et aérobie au-dessus de ce qu'on va aller chercher sur la route, sauf à bien le travailler bien sûr à l'entraînement.
Et d'ailleurs, je suis en train de me demander, Cyril, si
on écoute Alexis Villermoz.
Aujourd'hui, pas chercher un résultat, j'ai pas fait la gagne ou rien du tout. Mais voilà, j'étais à deux ou trois reprises. La troisième était la bonne, même si honnêtement, j'étais persuadé que la deuxième allait être. Mais j'ai serré les dents, fermé les yeux. Et si je continue à faire les pédales jusqu'au bout, jusqu'à la ligne, après je me suis effondré. C'est seulement en présent que je me rends compte que j'ai gagné le dernier Tour de France, c'est énorme.
Vous n'avez pas battu n'importe qui, le petit coup d'œil que vous aviez de ce côté-là, c'est Chris Froome qui est juste à côté en train de pédaler là pour récupérer. Et vous l'avez battu, Chris Froome, vous avez pris la bonne roue.
Ouais, après, c'est vrai que c'est vraiment le type d'étape qui me convient. Je suis pas sûr qu'en haute montagne je fasse le poids, mais je serais plutôt là pour aider Romain Bardet et Jean-Christophe Perrault à essayer de rivaliser. Pour ma part, c'était vraiment, je suis vraiment un grimpeur puncher, donc ce type d'arrivée à fort pourcentage me convient parfaitement. Donc voilà, chacun ses spécialités. Maintenant, on voit que chaque coureur ont des résultats dans leur discipline favorite.
Vous faites le modeste, c'est la dernière question. Vous faites le modeste et des Bardet, Perrault, d'accord. Mais en haute montagne, on va vous voir quand même.
Ouais, effectivement, j'espère qu'on me verra, mais ça sera dans le but d'aider justement mes deux leaders. Je sais parfaitement qu'ils sont meilleurs que moi. Et la stratégie d'équipe veuille qu'on s'occupe du meilleur coureur. Sur le type d'arrivée comme aujourd'hui au mur de 8, c'était moi qui était prévu pour l'arrivée. Et pour d'autres types d'étapes, ce sera d'autres coureurs.
Allez,
voilà, Alexis Villermoz, donc au signal international qui interroge évidemment le vainqueur de l'étape. C'est la première fois depuis le début de ce Tour de France qu'on a un Français qui répond au signal international. Donc on est ravis de l'entendre. Quelle belle victoire d'étape donc pour Alexis Villermoz, ce jeune Français venu du VTT et qui confirme que la formation AG2R, Cyril, a quand même de sacrés clients dans son équipe, même si Bardet et Perrault nous ont un tout petit peu déçus dans les premiers jours, mais en tous les cas avec Villermoz. Fred voulait ajouter un...
Ouais, une petite précision, c'est la 8e étape du Tour aujourd'hui entre Rennes et Murs de Bretagne. L'an passé, Blaise Cadry, également coureur d'AG2R La Mondiale, avait remporté la 8e étape à Gérardmer.
Un autre équipier de Villermoz, Christophe Riblon.
Avec Christophe Riblon. Christophe, victoire d'Alexis.
Super, j'essaie juste de le voir, ce serait bien.
Il est au protocole derrière là en fait.
D'accord.
Vous êtes impressionné?
Non, on le savait, non, il a déjà fait 3 à 8 et 6 à la flèche. Donc ouais, non, c'est bien, c'est une bonne chose.
Les félicitations de Christophe Riblon qui est en train de retrouver Jean-Christophe Perrault également derrière la ligne. Il y a beaucoup d'agitation évidemment, puisque il y a ce système aujourd'hui de demi-tour pour les coureurs, il faut qu'ils repartent à l'envers. Donc c'est un petit peu perturbé par rapport à d'habitude.
Et oui, évidemment, Alexis Villermoz, donc félicité par son manager Vincent Lavenu, qui a connu un début de saison un peu difficile, oui. Et qui retrouve le sourire aujourd'hui.
Oui, hein. Oui, le contrôle positif d'un de ses coureurs à l'EPO, Lloyd Mondori. Eh bien, cette fois, oui, si je soulignais la performance d'Alexis Villermoz aujourd'hui sur la 8e étape du Tour, comme celle de Blaise Cadry l'an passé sous la pluie des Vosges à Gérardmer, c'est peut-être que le Tour d'AG2R La Mondiale prend le même visage que celui d'il y a un an. Si l'on regarde le classement aujourd'hui, Jean-Christophe Perrault est 18e, Romain Bardet est 20e. Ils sont à moins de 3 minutes au général. Un de leurs équipiers taillé pour la haute montagne s'impose aujourd'hui avant même le début des Pyrénées et des Alpes. Ça ressemble à un début de bis repetita. Cyril, ça existe ce genre de spirale dans lequel on se met et qui se reproduise d'une année sur l'autre?
Oui, tout à fait. Et c'est Villermoz qui va remettre cette équipe dans cette spirale positive, cette spirale de victoire. Alors j'ai presque envie de dire un tout petit bémol, puisque Bardet a explosé et a perdu, enfin explosé. Il a perdu 20 secondes.
Ah, c'est pour ça donc il faisait un peu la gueule tout à l'heure au micro de Pierre.
Et
hein.
Pinot qui a perdu à peu près une quinzaine de secondes également.
Ah, tiens encore.
Mais je trouve que Villermoz est... Alors c'est peut-être c'est peut-être très diplomatique, mais pour moi aujourd'hui le plus fort de l'équipe, c'est Villermoz.
D'accord. Même s'il le disait tout à l'heure, Cyril, dans la haute montagne, faudra peut-être pas trop m'attendre. Moi, je suis un grimpeur puncher. Les grimpeurs de grands cols, ce sont plutôt Bardet et Perrault.
Il grimpe bien les grands cols.
Et en plus,
il a un cran de plus que l'an dernier et un cran de plus qu'il y a deux ans. Il arrive à pleine maturité dans sa carrière, mais surtout, il a acquis maintenant. Il y a eu une interview qui est passée sur lui où il disait qu'au départ, il avait du mal à comprendre la course, du mal à se placer, du mal à comprendre les phénomènes de vent. Aujourd'hui, il les a complètement intégrés. Et je crois que malheureusement, le temps qu'il a perdu et qu'il le remet assez loin au classement général, puisqu'il est 27e, sont liés à la grande étape aux Pays-Bas où il a perdu beaucoup de temps sur des chutes.
Cyril, on retourne derrière la ligne avec un nouveau coureur aux côtés de Pierre-Yves Leroux.
Et oui, pas n'importe quel coureur puisqu'il était devant aujourd'hui Pierre-Luc Perrichon. Ça a été compliqué de tenir tête au peloton. Et évidemment, vous avez pris du plaisir dans cette échappée quand même.
Oui, on a pris beaucoup de plaisir avec Sylvain Chavanel comme on va dire chef de file de l'échappée, si on peut dire. Qui a quand même vachement bien contrôlé le truc. On a vu un moment que voilà, le peloton voulait pas nous laisser prendre de champ, donc on s'est relevé. Enfin, on a vraiment coupé l'effort en se disant s'ils veulent passer une journée plutôt tranquille, ils vont nous laisser prendre du champ. Donc c'est ce qui s'est passé. On a levé le pied, ils nous ont laissé remonter à 3 minutes 20, 3 minutes 30. Et puis après, on a roulé jusqu'au sprint intermédiaire. Puis on a été repris par un groupe de 17 coureurs avec des gros coureurs comme Katowski, comme Larseboom, enfin de mémoire, voilà. Moi j'avais deux équipés dans ce groupe-là. Donc là ça a vraiment relancé la course. Même si les jambes piquaient un petit peu, je me suis accroché et voilà, c'était une journée extraordinaire en Bretagne avec le maillot local sur les épaules et j'en ai profité un maximum.
Qu'est-ce qu'il raconte Sylvain Chavanel quand il est en échappée comme ça? Il blague, il détend l'atmosphère?
Oui, il était relativement détendu. On était à l'avant, on savait ce qu'on avait à faire et c'est vrai que il a plus d'expérience que nous peut-être pour gérer une échappée et je pense que cette expérience nous a quand même bien aidé aujourd'hui.
Vous étiez malade il y a une semaine, ça va mieux?
Oui, ça va beaucoup mieux. C'est vrai qu'il y a une semaine, j'étais encore incertain pour le départ. Voilà, les problèmes de santé, ça va, ça vient. Quand ça va, c'est mieux. Mais maintenant ça va beaucoup mieux. Tout est rentré dans l'ordre et je peux profiter à 100% de ce tour. Et aujourd'hui, c'était vraiment une journée de plaisir et j'ai profité.
Merci beaucoup Pierre-Luc, bonne continuation sur ce Tour de France. Voilà Christophe pour les premières réactions alors qu'il y a un convoi qui se met en place en fait. On peut pas travailler partout où on veut, comme en montagne, c'est un convoi simplement pour les coureurs en fait aujourd'hui pour qu'ils puissent redescendre.
D'accord, mais t'inquiète, Georges Quirino les attend en bas. Quand ils échappent à un reporter d'RMC Sport, ils échappent pas à deux reporters, ça c'est pas possible. On rappelle donc la victoire d'Alexis Villermoz, la première victoire française sur les routes de ce Tour 2016. Le jeune coureur, la formation AG2R la mondiale qui s'impose devant l'Irlandais Dan Martin pour 5 secondes. Valverde est 3ème, Sagan 4ème et Tony Galopin 5ème. Il est toujours dans le coup, Tony Galopin, au classement général. Pas beaucoup de changements. Chris Froome reste évidemment en jaune, mais certains ont perdu du temps. C'est le cas notamment de Vincenzo Nibali, arrivé avec 10 secondes de débours sur Chris Froome. Et puis Thibaut Pinot a une nouvelle fois perdu du temps. Il est arrivé 15 secondes derrière le maillot jaune de ce Tour de France. 17h34, on revient évidemment pour débriefer cette 8ème étape qui a été longue à se décanter, mais qui nous amène un grand sourire. Celui de la première victoire d'étape sur les routes de ce Tour 2015. A tout de suite.
RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
17h37, on a le sourire, faut bien vous le dire, on a le sourire ici à Mur de Bretagne après la première victoire d'étape d'un Français sur les routes de ce Tour 2015. La première semaine a été difficile, mais ça y est, c'est terminé, les ennuis sont derrière nous et désormais on espère retrouver les sourires comme celui d'Alexis Villermoz qui vient donc de s'imposer ici au sommet à Mur de Bretagne. On va évidemment vous en dire un peu plus sur ce garçon donc venu du VTT dans un instant. Auparavant, on part à Villeneuve d'Ascq trouver Fix de Châteaufort car se déroulent là-bas les championnats de France d'athlétisme avec notamment les séries du 100 mètres et la bagarre entre l'ancien, le maître et le petit jeune Vico Chambre, recordman d'Europe, c'est ça depuis quelques jours Fix.
Exactement, depuis samedi dernier au Stade de France, Christophe Lemaître qui vient de remporter à l'instant sa série en 10 secondes 22 sans vraiment être inquiété par la concurrence, en toute tranquillité Christophe Lemaître avec un vent assez porteur mais bien dans la norme, 10-22 pour Christophe Lemaître, il faudra bien sûr accélérer accélérer la cadence tout à l'heure en finale. Finale qu'on vivra à 18h35 et dans quelques instants, eh bien, la seconde série avec Jimmy Bicot, donc le nouveau co-détenteur du record d'Europe. On attend beaucoup de Jimmy Bicot et le vent est favorable dans la ligne droite. Donc ça pourrait aller très très vite dans quelques instants pour Jimmy.
Très bien, merci Fix, à tout à l'heure pour la finale, un peu plus tard dans la soirée. 17h38, on revient donc ici en Bretagne, terre de vélo, terre du vélo français, le vélo français qui est donc à l'honneur avec la victoire d'Alexis Villermoz, Fred. Voilà une belle victoire, voilà un nouveau nom que le grand public va découvrir ce soir, même si là aussi les grands spécialistes que vous êtes le connaissent depuis un moment, mais là c'est sa première grande victoire à l'échelle professionnelle.
Oui, 27 ans, Alexis Villermoz, coureur jurassien qui avait déjà participé au Tour de France. C'était sous le maillot de la formation managée par Stéphane Lo, le breton à l'époque, l'équipe Sorce-Jasson. Depuis, il porte le maillot de l'équipe AG2R La Mondiale. Et en véritable puncher, grimpeur, il est sorti à 700 mètres de la ligne d'arrivée en voyant que Christopher Froome emmenait les principaux favoris sur un faux rythme à ses yeux. En tout cas, il a été le seul à prendre l'initiative de cette attaque, les mains en bas du guidon. Un vrai coup de poignard donné à la concurrence. Ils ont mis du temps à réagir derrière. Dan Martin a eu un temps de retard qu'il n'a jamais pu combler, l'Irlandais de la formation Cannondale Garmin. Premier, Villermoz ici au-dessus de Mur de Bretagne. Deuxième, Martin. Troisième, Valverde. Valverde qui peut se mordre les doigts de ne pas avoir suivi Villermoz, mais Villermoz a sorti un parfait coup de son chapeau, un lapin en or aujourd'hui. Villermoz qui avait déjà remporté le Grand Prix de Plumelec, qui est une manche de la Coupe de France plus tôt dans la saison, qui avait terminé 6e de la Flèche Wallonne au sommet du mur de Huy, et également 3e à Huy il y a quelques jours derrière pour Ito Rodriguez et Christopher Froome. Alexis Villermoz, ancien vététiste qui a vraiment le gabarit, 1m75, 60 kilos, un vrai gabarit de puncher, qui ressemble un peu à Rodriguez en plus grand, et il est plus à l'aise que Rodriguez, me semble-t-il, en haute montagne.
Alors justement, maintenant la question c'est de savoir s'il va pouvoir rééditer ce genre de choses en haute montagne. On a commencé à esquisser le débat tout à l'heure, Cyril, mais on a été coupé évidemment par les réactions au micro de Pierre-Yves. Est-ce que tu penses qu'il peut arriver à jouer avec les grands dans la haute montagne qui arrive, on le rappelle, à partir de mardi, et pourquoi pas être l'un des grands leaders de ce Tour de France, enfin, peut-être pas leader, mais en tous les cas outsider.
Oui, enfin bon, il est loin au classement général, hein, 145, ouais. Il est dans une dynamique positive, il est en progrès constant, et puis là cette victoire sur le plan psychologique, au niveau de son moral, de sa motivation, attendez, c'est absolument extraordinaire. Donc je l'avais dit, rappelez-vous, il y a très peu de temps, j'avais dit que nous aurions deux révélations sur ce Tour de France, Warren Barguil, mais également Villermoz. Eh bien ça se confirme aujourd'hui d'ailleurs pour les deux, mais en haute montagne. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, il a un discours de quelqu'un de très modeste, mais on comprend qu'il soit, on va dire, politiquement correct, mais je pense que c'est le plus fort de son équipe et qu'il a des grandes choses à faire dans les Pyrénées ou dans les Alpes, car ce qu'il fait là, et compte tenu de son rapport poids-puissance, il grimpera aussi bien que Bardet et aussi bien que Perrault.
Je pense même, Cyril, que pour moi, il devrait prendre la place de leader dans l'équipe. Oui, même si tu veux, ou alors peut-être pas prendre la place de leader, mais être protégé et ne pas protéger seulement Bardet et Perrault, mais aussi que lui soit protégé en montagne et ne fasse pas le boulot pour Bardet et Perrault.
Mais messieurs, juste, on part à Villeneuve d'Ascq, car Jimmy Bicot va disputer sa série du 100 mètres fixe.
Oui, au couloir numéro 6, Jimmy Bicot qui a été vraiment applaudi comme il se doit lors de sa présentation, nouveau co-détenteur du record d'Europe, départ imminent de cette seconde série du 100 mètres. On rappelle que Christophe Lemaitre, tout à l'heure, s'est qualifié pour la finale en 10 secondes 22. C'est parti pour tout le monde. Avec donc Jimmy Bicot qui prend un très très bon départ, qui a déjà assommé un petit peu la concurrence. Attention, Manuel Biron également qui donne du fil à retordre à Jimmy qui l'emporte en déroulant à la fin, 10 secondes 20 vraiment sur les 30 derniers mètres. Il était en roue libre, Jimmy Bicot, avec un vent en plus défavorable, 10-19 par rapport à Christophe Lemaitre. Il y a avantage à Jimmy. Rendez-vous tout à l'heure à 18h35 pour la grande finale du 100 mètres.
Merci Félix, à tout à l'heure, la grande finale avec Christophe Lemaître et Jimmy Vico qui vont donc se livrer bataille tout à l'heure dans ce 100 mètres. Lucho, tu disais, je sais plus.
Oui, je disais de Viermousse que je pense que je serai à la place de Vincent Lavenu, c'est le protéger en montagne. Et que Villarmoz ne doit pas faire le travail pour Perrault et Bardet, et qu'il soit aussi protégé que ces deux.
Le problème, comme le collègues. Disait Cyril, c'est qu'il est loin au classement général.
Oui, mais il est loin, mais tu sais.
À 5,46, alors que Romain Bardet, qui a perdu du temps quasiment tous les jours.
D'accord.
Il est à 3,15, donc le problème, oui, il est classé aussi. Hein.
Je suis d'accord. Mais tu sais, dans la montagne, donc que ce soit dans les Pyrénées ou dans les Alpes, nul n'est à l'abri d'une grosse défaillance. 7 minutes, c'est beaucoup. Et peu à la fois en montagne. Et il suffit que Villarmoz, avec la condition actuelle qu'il a, de rester dans le groupe des favoris, j'irai sur toutes les étapes de montagne, il peut rentrer dans le top 5 du tour. Je dis pas sur le podium, mais il peut rentrer dans le top 5 du tour. S'il est constant comme il est aujourd'hui depuis le départ du tour, il a la possibilité de rentrer dans le top 5. Et c'est.
Oh là, tu t'avances là.
Non, mais je m'avance. Je m'avance. Oui, non. T'es le premier à dire que il est peut-être au-dessus de Bardet et Perrault en montagne, au moins qu'il a la possibilité de pouvoir grimper aussi bien.
J'ai pas dit qu'il allait gagner le tour ni qu'il allait.
Est-ce que je dis qu'il va gagner le tour. Je dis simplement, avec l'expérience et ton expérience, que quand tu es constant depuis le départ du tour et surtout en montagne, tu peux vite remonter les places au classement général et tu peux te replacer dans le top 10, voire dans le top 5. Et Villarmoz en a peut-être les capacités aujourd'hui.
Tenez, si on regarde le classement général, effectivement, Perrault n'est quand même qu'à 2 minutes 7, hein, il est 18e. Bardet est à 3 minutes 15 puisqu'il a perdu du temps. Et à 5 minutes 35, on trouve Villarmoz.
Ben, c'est pas
5,26,
c'est pas énorme, je suis désolé.
Mais c'est pas énorme, alors pourquoi rester dans le peloton tous les jours, autant perdre un quart d'heure. Non, ce que je veux dire, c'est que ces trois coureurs-là, on va voir comment les choses se passent, mais il est évident qu'il faut continuer à protéger Jean-Christophe Perrault. Bardet, à 3 minutes 15...
Il prend une pète aujourd'hui, Romain, encore.
Oui,
c'est ça le problème, Cyril.
Je suis d'accord avec toi, mais
ils n'ont pas
des positions au classement général pour dire on va faire le général. Il va falloir faire la course, et c'est la course qui va faire à un moment ou à un autre, l'un de ces trois-là va se trouver en position.
Qu'est-ce que
mais
je t'ai
en
dit?
En position de quoi? En position peut-être de venir faire un top 10, mais... Et là encore, c'est pas évident.
Il y a du beau monde quand même.
Je suis pas d'accord, on en reparlera dans une huitaine de jours.
Dans les 25 qui précèdent Alexis Villarmoz,
on peut faire un débat, tiens.
T'inquiète, on va en faire des débats. Oh là là, des débats, on veut tu en voilà jusqu'au 26 juillet. Donc ne lâchez pas toutes vos munitions maintenant.
Non, c'est bien parce qu'il y a un petit débat entre Cyril et moi, et c'est très agréable pour les auditeurs d'avoir chacun notre avis.
Tu lâches trop de cartouches là.
Mais non, je lâche trop de cartouches, mais non, tu sais bien.
T'es né dans le vent.
J'étais derrière Villarmoz.
Allez, 17h46, on s'interrompt quelques instants. On revient pour terminer le direct. On vous rappelle donc la victoire d'Alexis Villarmoz, le coureur de la formation AG2R. C'est la première victoire d'étape pour un Français sur les routes de ce Tour 2015. Et ça nous redonne le moral. À tout de suite.
Rico.
RMC, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Retour à Mures de Bretagne à l'issue de cette huitième étape du Tour de France sur les terres bretonnes, qui a donc vu la victoire non pas d'un Breton mais d'un Français, c'est déjà pas mal. Il se nomme Alexis Villarmoz, surnommé Pikachu, paraît-il. Pikachu, ça vous donne quoi Pikachu? Hein, ça vous dit quoi Pikachu?
Ah, c'est un héros de les Pokémon. D'accord, c'est le papa Christophe qui parle en ce moment.
Pikachu, voilà, c'est le surnom d'Alexis Villarmoz. Ce petit gabarit, Fred, hein, c'est pas un énorme costaud, mais alors quand il s'agit de se mettre droit sur les pédales et d'accélérer, on a vu qu'il savait y faire. Il a réussi à tout d'abord dans un premier temps à prendre la roue de Chris Froome et ensuite eh bien de déboîter, d'aller faire le travail tout seul. Personne n'a réussi à l'attraper.
Oui, 1m75, 60 kilos. Il avait déjà attaqué à 1,5 km de l'arrivée. trouvant que le rythme du groupe maillot jaune regroupé au pied de la montée finale n'était pas assez élevé à ses yeux. Repris, on l'a vu engueuler des compagnons de fortune qui ne roulaient pas assez vite. Il a réintégré le groupe maillot jaune, s'est calé dans la roue du maillot jaune Christopher Froome qui emmenait le peloton pour contrôler la concurrence, et à 700 mètres de la ligne, se dressant sur ses pédales, les mains en bas du guidon, en danseuse, il a effectué, me semble-t-il, les 700 derniers mètres en danseuse. Je suis curieux de savoir à quel vitesse, à quel rythme battait son cœur, parce qu'il a semblé vraiment en apnée sur la ligne d'arrivée. Alexis Villermoz qui s'impose devant Dan Martin qui est sorti un poil trop tard pour aller reprendre Villermoz, et Valverde qui règne le groupe des favoris. Valverde devant Sagan et Tony Galopin qui fait un nouveau top 5.
Eh oui, un nouveau top 5 pour Tony Galopin qui est bien là, toujours là également au classement général, mais bon, ça sera difficile d'aller chercher le maillot jaune car il y a demain le contre-la-montre par équipe, même si l'équipe Lotto n'est pas mauvaise, mais enfin il y aura sans doute de plus gros clients devant, et notamment Chris Froome et sa formation Sky. Alors la plupart des leaders sont arrivés dans les temps, dans le même temps que Chris Froome, mais il y en a un qui aujourd'hui a payé l'addition. On va retrouver Pierre-Yves Leroux avec derrière la ligne d'arrivée, voilà. Ou au protocole, oui.
Avec Alexis Villermoz.
Oh, génial.
Alexis, vous vous souvenez que vous étiez assis là à reprendre votre souffle il y a quelques minutes. Racontez-nous ces dernières minutes, ce passage de la ligne.
Pour être honnête, encore à l'heure actuelle, je suis encore très émoussé de cette arrivée. J'ai attaqué, l'équipe m'a positionné parfaitement au pied du mur de Bretagne. Ça a été vraiment le moment clé de la journée. Je craignais un peu, et tout l'équipage de la mondiale a fait un très beau travail pour replacer Romain, JC et moi. Ensuite, j'ai pris mes responsabilités en attaquant dans le raid. Deux coureurs ont pu me suivre. Je ne voulais pas les emmener comme ça jusqu'à la ligne d'arrivée. J'ai décidé de me relever. Après, quand Christopher Froome est revenu, j'en ai profité pour prendre sa roue, récupérer un peu dans sa roue. Et dès qu'il avait baissé le régime, j'ai attaqué. Je ne savais pas où ça allait aller. Honnêtement, j'étais déjà un peu à bout de force. Et à 800 mètres de la ligne, j'étais déjà vraiment très, très entamé. Après, j'ai continué mon effort. J'ai baissé la tête, fermé les yeux et continué à pédaler jusqu'au bout. Je pensais qu'ils allaient me reprendre. Et finalement, personne n'est revenu. Et à 50 cm de la ligne, j'ai réalisé que ça l'avait fait.
Là, vous réalisez maintenant que vous avez battu Froome et compagnie.
Ouais, j'ai surtout une pensée pour mon père que j'ai perdu il y a 3 ans. Et voilà, c'était un grand passionné du Tour de France qui m'a donné goût au vélo et au Tour de France. Aujourd'hui, j'espère qu'il est très fier de moi et de cette victoire d'étape. Et vraiment, voilà, je pense très très fort à lui. Et vraiment, j'ai au fond de mon cœur. Et c'est ce qui m'a permis aussi de continuer à me battre, même quand la force me manquait. Et j'ai vraiment été au bout de moi. Et voilà, je me dois aussi de penser à Daniel Germont, avec qui sans lui, j'aurais jamais été sur la route il y a 3 ans. Jean-Baptiste Kiclet, qui est entraîneur de l'équipe, qui m'a vraiment permis de venir sur route. Et mon entraîneur Yvan Colus, qui travaille avec moi depuis 2005, qui m'a permis d'atteindre ce niveau. Et voilà, bien sûr, toute ma famille. Et aujourd'hui, je dois cette victoire à toutes ces personnes.
Après les remerciements, est-ce qu'on peut avoir une question essentielle qui va faire plaisir à tous mes confrères? Pourquoi on vous appelle Pikachu?
Tout simplement pour l'attaque éclair. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai prouvé que je pouvais faire des attaques assez franches. Après, c'est souvent des attaques assez courtes, donc c'est pour ça que j'attends pas non plus d'attaquer à 5 km. J'attends vraiment le final pour attaquer. Et aussi, dans le passé, quand j'étais junior, j'avais un casque jaune comme Pikachu. Donc les attaques éclair, le casque jaune, m'avait voulu surnom en équipe de France de Pikachu.
Vous vous rendez compte que vous contrez Christopher Froome pour emporter enfin la première victoire française?
Ouais, c'est vrai que c'est pour moi une très belle chose. Après, je me considère vraiment comme un grimpeur puncher. J'ai des fibres rapides qui me permettent justement de finir un peu en puncher avec explosivité. En haute montagne, dans la discipline de Froome, ça va être beaucoup plus compliqué pour moi. C'est voilà, vraiment un très grand champion et qui est bien meilleur que moi en haute montagne.
Merci beaucoup Alexis, et félicitations, ouais, pour cette victoire évidemment.
Merci Pierre-Yves. Pikachu donc vainqueur ici à Mur de Bretagne, évidemment il va en être question tout au long de la soirée dans l'intégral tour, avec les questions de Martial Fernandez à Cyril Guimard. Ce sera tout à l'heure à 18h20, et puis nos débats entre 19h et 20h. En attendant, nous allons retrouver Frédéric Zermati pour le débrief des courses de la journée. Salut Fred.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Le Quintet Plus d'aujourd'hui sur les pentes d'Anguin été remporté par son favori, le 5 Calvin Borel, non sans donner chaud à ses preneurs puisqu'il s'est montré fautif à un tour de l'arrivée, et ensuite il a fait un véritable numéro pour s'imposer devant le 6 Blues d'Ourville qui a eu un très bon parcours dans son dos et qui l'attaquait mais en vain. L'As Harlequin prend la troisième place devant le 10 Anicio Bello qui était à grosse cote et qui se classe quatrième. Le 11 Davy Bocco complète la combinaison de cet événement. 5, 6, As, 10 et 11 rapportent dans l'ordre 80 760 €. La tirelire n'est pas tombée et demain nous allons galoper du côté de l'hippodrome des Princes de Condé. J'ai bien sûr nommé l'hippodrome de Chantilly avec une tirelire de 4 400 000 €. Brahim, je sais que tu es très chaud avec un concurrent pour ce quintet de demain.
Oui, je vois bien le numéro 3 célèbre, entraîné par justement par Frédéric Rossi qu'on a eu ce matin dans l'émission. Il est en forme, je pense que si on effectue le déplacement, ce n'est pas sans une certaine ambition.
Eh bien, moi je pense que tu as fortement raison. Moi je vous conseille vraiment d'allonger le tir parce que ce quintet reste tout de même très ouvert demain sur l'hippodrome de Chantilly. Alors si vous voulez des infos complémentaires, des bonnes infos, rendez-vous sur le site d'rmcsport.fr.
PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Voilà, c'est terminé pour le direct de l'Intégral Tour. Évidemment, Martial Fernandez va prendre le relais. Cocorico ce soir, Martial. On est ravis ici. J'imagine que toute la France doit l'être parce que ça fait plaisir de voir un Français vainqueur d'une étape.
Alexis Vuillermoz, c'est vrai, Christophe. Et on en reparlera bien sûr à 18h20 comme tous les jours avec Cyril Guimard. Sauf que forcément, ce soir, c'est un soir particulier. Les transferts en foot aussi au programme dans la prochaine heure avec de l'animation pour les grands clubs européens. L'athlétisme avec le duel Vico Le Maître lors du 100 mètres des championnats de France, ça c'est à 18h35. Et puis le tennis et Serena Williams, encore un peu plus dans la légende.
RMC Intégral Tour.